France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Les faits, objectivement, c'est que les taux d'incidence sont hauts. Ils crèvent même parfois les plafonds autour de 500 pour 100 000 habitants en moyenne nationale. Parfois, on est même bien au-delà de ça. C'est délirant. Souvenez-vous quand même qu'on a confiné à 50 lors de la première vague. Sauf que l'hôpital en l'état tient le coup sans minimiser ses nombreux problèmes. Il n'a échappé à personne que le plan blanc était déclenché dans plusieurs endroits, notamment en Île-de-France. Mais c'est vrai aussi qu'avec un tel taux d'incidence et sans vaccin, ce serait vraiment la catastrophe. En cela, cette vague est inédite. Elle l'est aussi parce que les variants dont on nous parle, ce ne sont pas les mêmes. Le Delta, on le sait, a couru extrêmement rapidement, en particulier chez les enfants, d'où leur vaccination à venir, en tout cas pour les plus fragiles. Il semble que Delta soit autour de son pic, mais immédiatement derrière lui, et bien plus vite que prévu, si l'on en croit en tout cas les Anglais qui sont déjà dessus, vient le variant Omicron, qui reste mystérieux sur plusieurs points encore. Ça aussi, c'est une vague inédite, ça rend les choses compliqué à lire, compliqué surtout à se projeter. Or, ce que nous voulons désespérément et qui est incroyablement difficile, c'est de nous projeter vers un après plus serein. Je pense que ça n'est pas encore pour cette fois. La drôle de vague, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Nathalie, c'est vous la première. Bienvenue, Nathalie, on vous écoute.
Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour une question, en fait, parce que du coup... Bon, en fait, le virus, il mute, mais en fait, on nous parle toujours du même vaccin. En fait, il n'y a pas de remise en cause du vaccin. En fait, c'est un seul vaccin pour... alors que la grippe, c'est pas du tout comme ça, en fait. Donc voilà, je me demandais, en fait, pourquoi on cherche pas autre chose, en fait.
Eh bien, on va tâcher de répondre à votre question.
Puis, bon, on dit que les vaccinés continuent à transmettre le virus. Alors pourquoi on teste pas les vaccinés aussi? Enfin, c'est quoi le plan B, quoi, en fait? Est-ce qu'il y a un plan B ou pas du tout?
Eh bien, on va essayer de répondre à votre question, Nathalie. Je pense quand même qu'on teste aussi les vaccinés. C'est pour ça qu'on sait désormais, effectivement, que le virus peut aussi atteindre les vaccinés à double dose. Pour répondre à vos questions et discuter ensemble jusqu'à 20h, Anne-Claude Crémieux est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infectiologue, on vous présente à peine, vous êtes une habituée de chez nous. J'ai envie de dire hélas, Madame Crémieux, mais en fait, on est ravis de vous voir à chaque fois quand même. Bonsoir, Antoine Flao.
Bonsoir.
Vous aussi, vous êtes un habitué, c'est tant mieux, épidémiologiste, professeur de santé public à la faculté de Genève. Anne-Claude Crémieux, est-ce qu'on peut répondre à la question de Nathalie? Question pertinente, après tout. Pourquoi on ne change pas de vaccin, en fait? Pourquoi on ne bouge pas?
C'est une question très pertinente. En réalité, jusqu'à présent, les variants, que ce soit le premier variant sud-africain, qui, rappelez-vous, était assez résistant au vaccin, mais rien à voir avec Omicron, ou le variant Delta, ne remettait pas en cause l'efficacité des vaccins. Et même il y a eu des essais dans les laboratoires avec un nouveau vaccin, donc bêta, qui n'était pas plus efficace que le vaccin qui est fait avec la souche initiale Wuhan. Donc, pour l'instant, il n'y avait pas de raison de changer. Mais vous avez raison, maintenant, les choses sont en train de changer. Parce qu'on a un variant qui est beaucoup plus résistant et qui, là, challenge beaucoup plus le vaccin initial. Et ce que l'on pense, c'est que on s'oriente vers des vaccins exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire comme la grippe, avec à l'intérieur plusieurs types protéines des différents variants.
Sauf qu'on sait, pour la grippe, on fabrique effectivement un vaccin différent chaque année parce qu'on est capable, parce qu'on sait faire ça, par des études, etc. On est capable de dire, voilà ce qu'il faudra pour cette grippe-là. Mais là, on se dit, est-ce qu'on saura même ce qu'il faudra pour ce variant-là, en fait?
Non, vous avez raison. Jusqu'à présent, l'évolution du virus vers des variants est totalement imprévisible. Mais on a un avantage par rapport à la grippe, c'est la rapidité avec laquelle on peut adapter ces vaccins. Vous savez que c'est des vaccins à ARN messager, il faut 3 mois pour les adapter. Donc, quelque part, nous sommes toujours incapables de prévoir, mais on s'adapte de plus en plus rapidement.
Quand même, Antoine Flahault, parce que c'est la réponse de tous les pays pour l'instant, et donc le nôtre aussi, lorsqu'on est en majorité Omicron, on va le dire comme ça, nous, ce qu'on nous dit, ce qu'on a entendu, c'est oui, c'est vrai, le vaccin est moins résistant, mais néanmoins, le boost est une bonne chose, donc la troisième dose et permet une bien meilleure immunité que simplement deux doses. Est-ce qu'on redit ça? Est-ce qu'on en est vraiment sûr, Antoine Flahault? Est-ce qu'on peut être là-dessus très rassurant?
Alors oui, on a de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Et je pense que c'est peut-être aussi cela qu'il faut répondre à votre auditrice. Mm-hmm. C'est-à-dire que on a découvert que le schéma vaccinal complet, c'était pas deux injections, mais c'était trois injections. Avec deux injections, vous êtes efficace à 35% seulement sur le Omicron, mm-hmm. alors qu'avec trois injections, vous êtes efficace, je parle du vaccin Pfizer qui a fait les premiers essais et qui les a montrés, jusqu'à 75%, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près l'efficacité des essais cliniques avec la première souche de Wuhan. Donc, on peut dire aujourd'hui que il est pas totalement sûr qu'on aura besoin de ce vaccin adapté à la souche Omicron, mm-hmm. si jamais on a un vaccin qui reste suffisamment efficace pour parer les hospitalisations, même la transmission, grâce à ce schéma vaccinal complet. Il faut donc absolument qu'on ait tous ce schéma vaccinal complet à trois doses.
Est-ce qu'on le saura à un moment, Anne-Claude Crémieux, si oui, comme le dit Antoine Flahault, on pourra effectivement rester dans ce 75% qui est déjà plus haut que le vaccin pour la grippe hivernale, donc pourquoi pas, ou si, oui, il faudra de toute façon une quatrième dose qui sera transformée, on va dire.
Alors on sait malheureusement une chose, c'est que les anticorps ont tendance à baisser après deux doses, reste à savoir ce qui va se passer après trois doses. Mm-hmm. C'est vrai que là, on a, je dirais, franchi un cap dans la résistance du variant vis-à-vis de notre vaccin, et bien sûr, sûr que la première chose à faire, c'est de faire ce rappel, parce que mmh. ça va augmenter la protection de l'ensemble de la population. Mais je pense que on s'oriente vers des vaccins plus adaptés, plus efficaces.
À des périodicités qui sont même plus courtes que le vaccin de la grippe hivernale, parce que là, on s'est bien rendu compte après la deuxième dose que c'était donc à peu près autour de 6 mois. Est-ce qu'on entrevoit sur ce variant-là, sur ce Covid-là, est-ce qu'on entrevoit que le rappel des doses, ce sera chaque 6 mois, chaque 4 mois, chaque année?
Le problème, c'est que on sait qu'après deux doses, les anticorps baissent et que déjà à 5 mois, on est limite sur le delta, c'est ce qu'on a vu. Mmh. La vague que nous vivons, c'est une expression du fait que notre, après 5 mois, 2 doses sont insuffisants pour maîtriser la vague delta. Et comme le variant Omicron est plus résistant, d'un facteur 10, alors oui, on sera probablement amené à proposer ce rappel à la majorité de la population, et pour certains, avant 5 mois.
Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Pierre.
Bonsoir à vos invités également. Oui, tout à l'heure, j'écoutais un reportage très intéressant sur la Chine. Effectivement, cette façon de confiner les étrangers. Donc, actuellement, nous sommes confrontés, enfin, les Anglais sont confrontés à ce variant de manière assez forte. Ne pourrait-on pas, en France, appliquer, enfin, en Europe plus exactement, appliquer ce confinement, par exemple en ce moment, aux Anglais, cette façon de justement surveiller un petit peu tous les gens qui rentrent sur notre territoire et les mettre en quarantaine, en fait, comme font un petit peu les Chinois, peut-être pas aussi de manière aussi forte.
Bah, alors c'est ce que j'allais vous dire, Pierre, si vous avez entendu le reportage réellement, c'est quand même d'une violence terrible. Hein. Vous voulez rester trois semaines, vous, dans un appartement où on vous apporte à manger et où une sonnerie retentit dès qu'on ouvre la porte.
De manière un petit peu similaire, pas aussi forte, bien entendu. Je comprends très bien, oui, j'ai écouté le reportage qui était particulièrement violent, c'est vrai. Mais on devrait quand même un petit peu veiller à ce que ça soit plus strictes quand même, vous croyez pas?
Ben, on va demander à nos invités. Antoine Flahaut, au début de l'épidémie, moi je me souviens, votre grand truc à vous, c'était le tracé isolé, chose qu'on n'a jamais réussi à faire de manière réellement efficace. Est-ce qu'il est toujours temps de s'y remettre dans une situation comme celle qu'on va peut-être traverser là? Ou est-ce que au point où nous en sommes, de toute façon, ça c'est mort?
Ouais. Je crois que vous avez très bien répondu à votre auditeur. C'est d'une violence extrême. C'est-à-dire que même des pays très démocratiques comme Taïwan ou comme la Nouvelle-Zélande ont essayé et continuent d'ailleurs à essayer un contrôle très très strict aux frontières, mais c'est extrêmement compliqué et c'est très douloureux, c'est vécu de façon très douloureuse par les ressortissants. Vous imaginez que dans ces pays il y a des gens qui ne sont pas natifs de Nouvelle-Zélande par exemple, et qui ont de la famille en Inde ou en Europe, où ils n'ont pas pu depuis 2 ans pratiquement les voir, ils n'ont pas pu sortir de chez eux. En fait, ce qui se passe, c'est que ces stratégies, moi je les ai regardées de très près, elles sont très performantes. Votre auditeur a raison, elles sont très performantes sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que ces stratégies qui sont zéro Covid toujours à Taïwan ou en Chine, qui sont plus pragmatiques maintenant en Nouvelle-Zélande, sont très performantes. Il y a une très faible mortalité, il y a eu très peu de cas, mais au prix de cette fermeture des frontières qui est particulièrement douloureuse. Par ailleurs, quand vous êtes au milieu du Pacifique ou même au milieu de l'Atlantique, l'Islande est aussi dans ce même type de... C'est beaucoup plus facile.
Et en Islande, il y a 350 000 habitants, monsieur. Et Farrow, en Islande,
bon, oui, mais la Chine est un très grand pays.
En
Chine plus. Mais la Chine est un pays très autoritaire. Donc, vous avez ou affaire à des pays très autoritaires ou affaire à des pays très insulaires et qui ne peuvent pas être transposé à l'exemple de la France ou de la Suisse. Je crois qu'on est très interconnectés au niveau de Schengen et que, en tout cas, on ne peut pas imaginer qu'on arriverait à une telle efficacité. Et ensuite, je ne suis pas sûr. Alors, on peut avoir un meilleur contrôle aux frontières. En particulier, on pourrait tester, mettre en quarantaine, en effet, des gens revenant de zones à très haut risque. C'est-à-dire que ce serait un peu pragmatique. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a des variants qui se multiplient dans ces zones-là, peut-être que l'on pourrait être un peu plus prudent dans les avions qui débarquent chez nous. Ça, c'est possible. Mais imaginez d'avoir une technique à la chinoise me paraît être simplement non conforme à notre façon de vivre, quoi.
Anne-Claude Crémieux, là-dessus,
oui,
puis on retourne au standard.
Deux choses. Bon, la première, malheureusement, le variant Omicron est déjà largement présent sur le territoire. Et on sait qu'à ce moment-là, les contrôles aux frontières sont beaucoup moins efficaces. Et la deuxième chose qu'on a appris avec cette épidémie, c'est que le tester tracé, théoriquement, est quelque chose d'extrêmement efficace. Certains pays ont été capables de contrôler l'épidémie comme cela. Mais le variant Delta est maintenant le variant Omicron ont cette caractéristique, c'est qu'ils passent très rapidement d'une personne à l'autre et ils mettent en énorme difficulté le tester, tracer et isoler. Et on l'a vu, aujourd'hui, il n'y a plus que la Chine qui arrive à casser les chaînes de contamination.
Et on sait dans quelles conditions. Donc, j'en viens à cette question d'Anthony d'Albertville, parce qu'elle va dans le sens de ce que vous dites. Il nous demande, Anthony, si on peut expliquer comment ce nouveau variant Omicron a réussi à circuler, parce qu'on a bien compris qu'il était parti d'Afrique du Sud. Bien sûr, on a compris qu'on avait pu lâcher ici et là. Mais comment se fait-il qu'on le retrouve? Est-ce qu'on sait pourquoi on le retrouve en si grande quantité dans un pays comme l'Angleterre, par exemple, en ce moment? Ou est-ce que c'est, une suite à la question d'Antonio, ou est-ce que c'est simplement parce que l'Angleterre séquence tellement mieux que nous, toujours depuis le début, qu'il y a ce chiffre très important? Puisque, comme d'habitude, ce sont les Anglais et les Danois qui ont le plus de variants. Or, ce sont des grands séquenceurs. Donc, au bout du compte, c'est quoi la raison?
Alors, deux choses. Ça dépend des relations avec les pays d'où vient le variant. Et c'est vrai que l'Angleterre a plus de relations avec l'Afrique du Sud que la France. Ça, c'est un premier facteur. Et le deuxième facteur, vous l'avez extrêmement bien souligné, c'est la capacité de détection. Mais c'est vrai que probablement, il y a un petit décalage entre l'Angleterre, qui a reçu probablement très tôt ce variant, et la France, comme il y a eu un décalage pour le variant anglais et le variant Delta. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on profite de ce décalage pour cette campagne de rappel.
Jean-François est avec nous. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute ?
Oui, bonsoir. Moi, je suis un auditeur en direct depuis Israël, et puis donc je suis aussi français. Et moi, ma question est assez simple dans le sens où quand est-ce qu'on revient à la vie normale? Parce que c'est assez terrible, même psychologiquement. Bon, bah ici en Israël, on a tous nos trois doses depuis très longtemps. C'est contenu, mais les frontières se ferment très régulièrement. C'était ouvert, ça se referme. Avec nos familles qui sont en Europe, on n'a plus de projet depuis 2 ans. On ne sait plus quand est-ce qu'on se voit. On est, enfin, là, je pense que je suis pas le seul quand on parle avec mes amis. On est tous épuisés. Alors, on fait les vaccins, on fait tout ce qu'il faut, mais il y a à chaque fois une vague supplémentaire qui nous tombe dessus. Et psychologiquement, pour la population, c'est très très dur. Très dur.
Et pour chacun, et alors vraiment, Team Jean-François, en effet, parce que on en plaisante à moitié, mais moi aussi, je suis comme tout le monde, je croyais que c'était fini à un moment, qu'on avait fait ce qu'il fallait. Antoine Flahaut, là-dessus, et je vais, pour aller dans le sens de Jean-François, poser la question différemment. Tel qu'on est parti là, après le variant, il y aura un autre variant, et après l'autre variant, il y aura un autre variant. À quel moment on se dit qu'on peut cohabiter avec ce virus tout en retrouvant nos vies normales? Ça veut dire quoi, pouvoir cohabiter avec un virus qui vraisemblablement ne va pas disparaître comme le SRAS avait pu disparaître après avoir été contenu dans le lieu géographique où il avait démarré? Si on passe encore une fois d'un variant à l'autre tout le temps, à quel moment on se dit on doit cohabiter avec et recommencer à vivre?
Alors c'est une question très très difficile et très compréhensible. Je crois qu'on en fait tous l'expérience de ce que vient de dire Jean-François en Israël. On en fait tous l'expérience un peu partout dans le monde en ce moment. C'est très difficile parce que on ne sait pas prédire. Hein. On ne sait pas prédire à moyen terme, on ne sait pas prédire à long terme, et on sait très mal prédire même à court terme. Alors personne n'avait vraiment prédit Omicron et personne ne sait ce qu'il y aura après Omicron. Il est possible que le pire n'arrive pas toujours. Il est très possible qu'on ait un jour, et peut-être ce sera le cas d'Omicron, pas forcément cette fois-ci, mais il est possible d'avoir un variant qui un jour se comportera comme un coronavirus banal et nous permettra à la fois d'être immunisés et de
enfin la grippette.
On peut en rêver, mais c'est pas aujourd'hui pas facile à prédire. La chose que je pense, que je soutiens depuis le début, enfin depuis cet été, mais qui, les faits ne soutiennent pas tant que ça mon idée, mais c'est de dire il faut profiter de la vie quand la période est calme. C'est-à-dire qu'on a eu une accalmie, et j'ai regardé de très près ce qu'a fait le Danemark, m'a beaucoup intéressé, parce que le Danemark a levé le pass sanitaire, le masque, toutes les mesures, le 10 septembre, au moment de l'accalmie, à peu près une ou deux semaines avant que les Français connaissent une accalmie aussi d'une durée de 1 mois. Ils ont une accalmie d'une durée de 3 semaines. Au moment où ça a remonté, j'ai recontacté mes collègues danois, je leur ai dit « Mais pourquoi vous remettez pas votre passe ?» Ils avaient perdu l'instrument juridique qui leur permettait de réinstaurer le passe. Il y a eu des atermoiements, ils ont attendu beaucoup trop longtemps. Eux, qui étaient pourtant un pays très agile, a mis beaucoup de temps à réinstaurer le passe. Mais pendant 3 semaines, ils auraient pu vivre normalement et réinstaurer le pass. Nous, dans le fond, on n'a jamais réinstauré enlevé le pass, que ce soit en Suisse ou en France, et on a eu 4 semaines d'accalmie et c'est reparti. C'est-à-dire que je pense que pendant les accalmies, il nous faut être extrêmement agile au niveau des autorités de santé. Il faut qu'ils soient capables de nous dire, bon, ben voilà, c'est l'accalmie, on est à moins de 5000 cas par jour en France, plus de masques, plus de passe, plus de cas, plus de contraintes.
Avant la prochaine fois, donc.
Avant la prochaine fois, mais ça recommencera peut-être.
Mais moi, ce que je me demande, Anne-Claude Crémieux, c'est parce que quand on regarde les vagues successives, aucune vague ne ressemble à la précédente. Puisque vrai. Pendant la première, d'abord, on découvrait, et surtout, personne n'était vacciné, on n'avait même pas de masque, donc c'est la raison pour laquelle on a confiné extrêmement tôt, puisque l'hôpital a été submergé, évidemment, beaucoup plus vite. La deuxième a été encore différente, la troisième aussi. Au bout de la quatrième, il commence à y avoir des vaccins, donc les cas graves sont très très différents, donc ils changent de tranche d'âge, et là on est dans des vagues où il y a un fort taux de vaccination. Donc est-ce qu'on se dit à un moment, est-ce qu'on pourra se dire à un moment, il y aura une vague, on peut laisser passer la vague, mais on a les barrières suffisantes, on les a, elles existent en fait.
Voilà, vous avez raison de le souligner, tout de même, on gagne du terrain
petit à petit par rapport à ce virus qui continue à évoluer, à aller très vite et, je dirais, à mettre un peu en difficulté nos vaccins et dont le dernier Omicron. Mais malgré tout, on gagne du terrain. Et pourquoi est-ce qu'on gagne du terrain ? Parce que le niveau d'immunité de la population augmente. Et ce niveau d'immunité, il est certainement important à terme pour éviter les formes sévères, les formes hospitalisées. Et au fond, le moment où on pourra revenir à la vie normale, c'est quand ce niveau d'immunité nous permettra non pas d'arrêter le virus, c'est fini, on a arrêté de rêver à ça, mais au moins de le laisser circuler sans qu'il ait un impact sanitaire.
C'est exactement ça,
on appelle ça
un
virus qui sera devenu endémo épidémique. Voilà. Et après tout, on peut imaginer que malgré tout, avec ces rappels successifs, avec l'adaptation dont on parlait, du vaccin qui va se faire, on va y arriver. Maintenant, si vous me demandez quand, je ne saurais pas vous le dire.
Oui, mais je vois bien ce que vous dites. À un moment, on vit avec comme une grippe, en fait, et on tombe malade, possiblement, en effet, mais effectivement...
Il faut bien regarder ce qui se passe en Afrique du Sud.
Sans que des formes graves soient faites.
Pardon,
il faut bien regarder
ce qui s'est passé en Afrique du Sud et voir si ce n'est pas le taux d'immunité important, parce que 80% de la population a déjà été vaccinée, qui a fait qu'ils ont eu moins de formes sévères que dans les autres vagues. C'est ça qu'on regarde. Et ça, on le scrute de voir quand est-ce qu'on peut imaginer arriver à cet équilibre entre l'immunité et le virus.
Quelqu'un qui arrive à presque 6 mois de son injection vient d'avoir un Covid Delta, nous dit Alice, qui est en Bretagne. Est-ce qu'il faut quand même faire la troisième dose ? Est-ce qu'on est mieux immunisé quand on est tombé malade là, à l'instant, au moment où la troisième dose devait avoir lieu ?
Alors, c'est une sorte de rappel. Ça, au fond, donc, elle vient de faire son rappel, malheureusement par une infection et non pas par un vaccin, donc aujourd'hui, elle peut attendre
avant de se faire le booster. Ouais, disons que la maladie a été son booster. J'espère que ça s'est bien passé pour elle.
Mais ça a été montré que la maladie booste les anticorps, parfois même un peu plus que le vaccin.
Michael est avec nous. Bonsoir, Michael.
Bonsoir.
Allez-y, Michael.
Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos émissions et je tiens à féliciter France Inter, la première radio de France. Bonjour à tous vos invités. Je tiens à préciser que je viens de prendre ma troisième dose de vaccin. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible de laisser la chance à nos enfants de s'auto-immuniser et de ne pas les obliger à prendre à se faire une injection de vaccin pour protéger des adultes qui sont plus ou moins responsables?
Merci pour votre question, Michael. Antoine Flahaut, c'est une question qui revient tout le temps et qui revient depuis qu'on parle des enfants d'ailleurs, et même qui revenait déjà quand on parlait des 12 ans, et c'est bien normal. Une fois qu'on a vacciné les fragiles, parce que là, effectivement, il y a une catégorie d'enfants qui sont plus fragilisés, disons qu'ils sont dans une catégorie à part, est-ce que c'est pour protéger les adultes, et en particulier non vaccinés, qu'on vaccine le reste des enfants, nous et beaucoup de pays, enfin nous pas encore, mais la question existe dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays occidentaux.
Oui, alors c'est une question qui agite les milieux scientifiques et les médecins entre eux déjà. Il n'est pas aujourd'hui totalement consensuel parmi les pédiatres, par exemple en France, de recommander le vaccin à tout le monde. Moi je crois que votre auditeur aurait raison si la vaccination n'était faite que dans un but altruiste, c'est-à-dire qu'on vaccinait les enfants que pour protéger les personnes âgées. Ce serait, avec un vaccin pas encore très connu depuis longtemps, ce serait un petit peu quand même exagéré si vraiment les enfants n'étaient pas à risque. En fait, des séries allemandes récentes montre que ça n'est pas vrai que les enfants ne sont pas à risque. Il y a eu 600 enfants hospitalisés, 5% sont allés en soins intensifs, 78% de ces enfants n'avaient aucun facteur de risque, aucune comorbidité. Bien sûr, ceux qui avaient des comorbidités avaient plus de risques de se retrouver à l'hôpital, mais beaucoup d'enfants n'étaient sans aucune comorbidité à l'hôpital, et malheureusement 0,8% en sont décédés. Donc l'idée que chez l'enfant, le Covid, c'est pas grand-chose, je pense qu'il faut le battre en brèche. Vous savez, on a un vaccin contre la varicelle. La varicelle n'a jamais tué beaucoup de gens en France, beaucoup d'enfants. Et pourtant, on vaccine tous ces enfants contre la varicelle. Et pourtant, les pédiatres, certains pédiatres français, étaient assez contre le vaccin contre la varicelle. Ils disaient qu'il fallait que les enfants fassent leur immunité. Mais cette notion de « il faut faire son immunité » n'est pas une notion scientifiquement prouvée aujourd'hui. C'est quelque chose qui remonte à longtemps. On a toujours pensé que faire son immunité, c'était une bonne chose. En fait, si je peux juste terminer sur la varicelle,
allez-y,
parce que c'est un exemple intéressant, c'est le seul exemple que je connaisse, en tout cas, où le vaccin est meilleur que la maladie. Si vous avez la varicelle, vous risquez de faire un zona. Si vous prenez le vaccin contre la varicelle, vous ferez ni la varicelle, ni le zona. Enfin, c'est un modèle très différent, évidemment, de celui de la Covid.
Allez, Aurélie est avec nous. Bonsoir, Aurélie.
Oui, bonsoir, merci de me recevoir. J'ai une question concernant le Moderna. Vous avez indiqué qu'il y avait une couverture de 75% d'immunité par rapport à l'injection du Pfizer pour la dose de rappel. Actuellement, au niveau du Moderna, pour la dose de rappel, on la donne en première intention plus de 30 ans. Quelle est son efficacité par rapport à Omicron qui arrive là actuellement?
Merci pour votre question, Aurélie. Question qui revient très souvent aussi, Anne-Claude Crémier, puisqu'il y a plein de gens qui se demandent s'il faut changer de schéma vaccinal, aller plutôt vers Pfizer ou revenir vers Moderna. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on peut répondre à l'aide d'une étude, celle qui a été faite par nos collègues d'Afrique du Sud sur Omicron, et qui ont montré effectivement que les personnes qui avaient reçu un vaccin Moderna, deux doses Moderna, lorsqu'elles recevaient un rappel Pfizer, faisaient plus d'anticorps et avaient une protection légèrement meilleure sur Omicron, après un rappel, que celle de Pfizer. Et ça correspond à ce qu'on sait du Moderna, c'est que vous savez que le Moderna, le vaccin est plus dosé et que le niveau d'anticorps secondaire au vaccin est plus important. Maintenant,
Mais donc vous dites Moderna, Pfizer. Et si on fait Pfizer, Moderna?
On n'a pas la réponse. Je vous donne la réponse. Tout ça est en train de quand même d'évoluer à une vitesse extrêmement rapide. Aujourd'hui, nous ne disposons pas des études qui comparent un rappel Pfizer versus un rappel Moderna sur Omicron.
Antoine Flau, vous vouliez intervenir là-dessus.
Alors, juste une chose, dans le rapport du Conseil scientifique qui doit dater du 8 décembre, donc très très récent, il y a le fait que, vous savez, la dose de rappel de Moderna était de moitié dose, de 50 microgrammes, et elle va probablement, selon le Conseil scientifique, être ramenée à une dose de 100 microgrammes pour qu'elle soit un peu plus efficace.
Donc, parce qu'on dit aussi, pardon, Monsieur Flau, parce qu'on dit aussi que Moderna est beaucoup plus raide, en fait, que c'est.
Oui, c'est vrai.
Que quand on a des effets secondaires, ils sont plus violents chez Moderna que chez Pfizer.
Oui, c'est vrai, mais ce sont quand même des effets secondaires considérés comme mineurs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune séquelle, on est un peu au tapis, vous avez raison de le dire, surtout quand on est jeune et qu'on a de bonnes défenses immunitaires, on peut être un petit peu secoué par l'injection, mais il semble que ce soit peut-être mieux d'avoir une injection un petit peu plus dosée.
Francis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Francis.
Oui, je suis soignant, je suis médecin radiologue à Valence. Juste, je voudrais simplement dire l'exaspération quand même des soignants. Autant à la première vague, on était tous d'accord, on savait pas où on allait. Là maintenant, c'est la cinquième, peut-être la sixième, la septième, on sait vraiment où on en est. Et quand même, aujourd'hui, c'est quand même une pandémie, une surcharge de l'hôpital, de sujets qui sont quand même globalement non vaccinés ou insuffisamment vaccinés, qui n'ont pas eu la troisième injection. Et je dirais que ça désorganise quand même l'hôpital. On va déprogrammer. On va déprogrammer 20%, 30%, enfin, à hauteur de ce qu'il faut déprogrammer. Moi, je me mets quand même à la place des patients qui ont des pathologies graves, qui vont pas être opérés de pathologies cancéreuses ou autres, qui vont avoir des pertes de chance. Aujourd'hui, on sait. Donc, à mon avis, il faut quand même tenir compte de ça. Et je dirais qu'effectivement, les nouveaux variants sont plus virulents, enfin pas plus virulents, mais plus contagieux. Après, bon, ça renvoie sur le pourcentage de personne qui doit être vaccinée, y compris les enfants.
Alors vous, en plus, particulièrement difficile, j'imagine, à Valence, parce que c'est vrai que le taux d'incidence en Drôme-Ardèche est particulièrement haut, d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'explique réellement, mais effectivement, là-dessus, les incidences sont hautes. Anne-Claude Crémieux, j'ai envie de vous poser la question comme ça, est-ce qu'on n'a pas déjà fait le tour, en fait, et j'en suis tellement désolée pour Francis, mais ceux qui, aujourd'hui, en gros, est-ce qu'on n'en est pas arrivé? Est-ce qu'on finit pas par arriver doucement au taux incompressible de gens qui seront de toute façon non vaccinés? Parce que personne aujourd'hui ne peut dire, au moment où on se parle, qu'il n'est pas au courant. Et donc, ça devient un choix, non? Qu'est-ce que vous en dites?
Oui,
Oui,
c'est vrai que dans les services de médecine aujourd'hui, on a une partie de non-vaccinés. On a aussi des gens qui ont été vaccinés deux doses depuis plus de 5-6 mois. Donc ce n'est pas complètement une épidémie de non-vaccinés. Mais dans les réanimations, vous avez tout à fait raison, la proportion de non-vaccinés est nettement plus importante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré tout, le vaccin a permis d'atténuer la gravité de la maladie, même chez des gens qui font l'infection. Donc oui, il faut se faire vacciner. Oui, c'est la seule manière d'éviter d'aller en réanimation et c'est la seule manière de mourir. Et malheureusement, il y a encore des gens non vaccinés en France.
Antoine Flao, et la question vaut pour nous en France, pour vous en Suisse, Monsieur Flao, mais pour d'autres, on a bien vu ce qui se passait aussi en Allemagne et ailleurs. Est-ce que j'ai envie de reposer la question dans les mêmes termes? Est-ce que de toute façon, il ne faut pas faire avec cette idée qu'il y aura un taux incompressible de gens qui resteront non vaccinés et que ça, de toute façon, on ne peut rien contre ça parce que c'est comme ça.
Alors, vous savez, le taux incompressible n'est pas le même, par exemple, au Portugal ou en Espagne.
C'est vrai.
Il est 10 points supérieur. Ils n'ont pas baissé les bras, les Espagnols et les Portugais. Ils se sont dit ils ont constaté qu'il y avait peut-être 1%, 2% de gens anti-vax, vraiment anti-vax, irréductibles, comme vous dites. Ceux-là, vous n'arriverez jamais à les convaincre. Ils n'ont jamais mis la vaccination obligatoire, mais ils ont déployé beaucoup d'efforts. Et puis, il y a une assez grande confiance vis-à-vis des autorités et des experts. Et ils ont obtenu des taux beaucoup plus élevés. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que la France a aussi pratiquement 10 points de plus que la Suisse. Hein, donc, la France est bien positionnée. Elle doit continuer à faire ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle le fait. Ce pass sanitaire a sans doute été, et peut-être même d'assujettir le pass à la troisième dose, est aussi une bonne façon de mobiliser la population. Il y a des pays, vous savez, l'Allemagne ou la Suisse, qui n'avaient jamais envisagé la vaccination obligatoire. Mmh. Ils envisagent la vaccination obligatoire tellement ils sont dans le même état d'esprit que votre auditeur, c'est-à-dire se dire mais c'est insupportable, y compris et d'abord pour les pauvres qui ne peuvent pas rentrer à l'hôpital parce que l'hôpital est encombré par des gens qui ont refusé le vaccin.
Question pratique de Sandy qui est à Nice. Anne-Claude Crémieux, j'ai été vaccinée avec Janssen. En France, on nous demande de faire une autre dose au bout de 4 semaines. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. L'Italie, par exemple, au bout de 5 mois. Donc qu'est-ce qu'il faut là aussi? Qu'est-ce qu'on essaye de comprendre quand on a été vacciné?
Non, alors le vaccin Janssen est notablement moins efficace à la fois contre le variant Delta et contre le variant Omicron. Donc le rappel doit être fait rapidement.
Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Daniel, on vous écoute.
Je vais essayer d'être clair. Bonjour, France Inter. Et voilà. Et ma question est la suivante. C'est que je me pose la question, je suis médecin, savoir si le vaccin ne favorise pas la mutation du virus, comme ça s'est passé pour le staphylocoque doré, qui est le plus grand prédateur du monde, quand on a eu les antibiotiques. Le staphylocoque est devenu multirésistant. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que notre possibilité d'inventer des vaccins est supérieure à la capacité de mutation du virus?
Eh bien, on va essayer de vous répondre l'un ou l'autre. Anne-Claude Crémieux, peut-être, parce que vous avez commencé partiellement à répondre à la question de Daniel précédemment.
Alors, la première question, est-ce que c'est le vaccin qui favorise la résistance? Je dirais non, mais ce n'est pas que le vaccin, c'est le niveau d'immunité de la population. Vous avez vu que ce variant bien résistant est apparu en Afrique du Sud, qui était un pays assez peu vacciné, 25%, mais par contre immunisé par l'infection naturelle. C'est vrai, le virus s'adapte à l'homme et il cherche à se multiplier et à se transmettre. Et pour ça, il devient plus transmissible, on l'a vu avec le variant Delta, et il devient plus résistant aux vaccins. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à une situation où on ne trouvera pas de vaccin ? Eh bien, ça, c'est la capacité qu'on a, et en particulier avec les ARN messagers, à pouvoir rapidement s'adapter, qui fait que l'on ne devrait pas en arriver là.
Est-ce qu'on peut dire, pour schématiser, pardon, de cette manière très très béotienne de le dire, mais que de toute façon, c'est bon, on a la structure, et qu'après, au fur et à mesure du vaccin, on change le barreau d'une échelle ou un autre, mais que de toute façon, la structure même ne sera jamais bouleversée. On est d'accord avec ça?
La structure du vaccin, vous voulez dire ?
On n'aura jamais qu'à...
On adaptera,
c'est ça, on
n'aura
jamais qu'à s'adapter ici et là,
comme
c'est comme des retouches en
comme
fait.
La grippe. On s'adaptera aux souches circulantes. On n'est pas dans le même cas de figure que les antibiotiques et le staphylocoque.
Qui sont autre chose. Vous vouliez répondre, Antoine Flahaut, également.
Tout à fait dans le même sens que Anne-Claude Crémieux, mais pour dire aussi qu'il n'y a pas, à ma connaissance, une seule résistance antivirale à un vaccin sur le marché. Je parle de toutes les maladies à vaccin. Il a parlé des staphylocoques, le médecin, c'est vrai, mais les hémophilus, etc., ne donnent pas, il n'y a pas de résistance au vaccin. En revanche, là où la question est pertinente, c'est qu'il y a des antiviraux qui arrivent sur le marché et qu'on redoute qu'il y ait des résistances avec ces antiviraux. Parce que pour le sida, on sait très bien qu'il y a des résistances antivirales, antimicrobiennes, je veux dire, à cause des antiviraux.
Il nous reste quelques minutes seulement, deux seulement, mais il y a une question d'Emmanuel dans l'Aveyron qui est pour vous, Antoine Flahaut, et qui dit « Je crois qu'il est maintenant établi que la transmission du virus se fait par aérosol. Pourquoi est-ce qu'on n'étend pas de manière massive les détecteurs de qualité de l'air et surtout détecteurs de CO2 et purificateurs ?»
Alors, je suis très, en effet, favorable à cela, mais la première des choses, c'est pas le détecteur qui va vous purifier l'air, c'est vraiment d'ouvrir les fenêtres, d'aérer et de ventiler. L'important, c'est de ventiler, c'est extrêmement important, y compris pour les fêtes de Noël, et si vous avez un détecteur, ça permet de mesurer la qualité de l'air et de mesurer que vous avez bien fait le job. Et si vous avez un purificateur, c'est encore, je dirais, c'est fromage et dessert, vous purifiez l'air de toutes les particules qui peuvent contenir du coronavirus dans votre air intérieur.
Anne-Claude Crémieux, rapidement, on ne parle plus jamais de l'AstraZeneca, nous dit Nathalie dans l'Essonne. Comment ça se fait ? Est-ce qu'on a abandonné l'AstraZeneca définitivement, son triste sort ?
L'AstraZeneca s'est révélé moins efficace sur le variant Delta, et là sur le variant Omicron, il est nettement moins efficace. C'est une des inquiétudes qu'ont les Anglais.
Alors c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle d'abord les Anglais sont très inquiets, mais aussi qu'il y a eu dispersion de ce variant Omicron ? Est-ce que un Pfizer après deux AstraZeneca les remet sur un pied d'égalité d'immunité par rapport à deux Pfizer ?
Absolument. Les Anglais ont réagi finalement assez vite aux nouvelles sur l'AstraZeneca, ils ont décidé de ne faire des rappels que avec le Pfizer, ce qui permet de ramener le niveau d'immunité à l'équivalent du Pfizer 3 doses.
Allez, j'ai retenu qu'on n'était pas encore sorti des ronces, mais que quand même, on pouvait ne pas être totalement pessimiste non plus. Non. Et c'est tant mieux. Merci à tous. Merci vraiment pour vos nombreuses questions.